Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Dumondi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Messieurs, mesdames, auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce débat dont le thème est « Ouvriers au Mali, défis et perspectives ». Comment se porte le secteur des ouvriers au Mali? À quoi ressemble la vie d'un ouvrier au Mali? La profession est-elle rentable? Est-elle suffisamment organisée pour faire face aux défis du secteur? Les ouvriers sont-ils sérieux envers les consommateurs? Pour répondre à ces questions, nous avons trois invités. Seydou Bokoum de l'Association des ouvriers du Mali. Monsieur Bokoum, bonsoir.
Bonsoir.
Nous avons également Cheikh Abdelkader Fofana de l'Association des consommateurs du Mali. Monsieur Fofana, bonsoir.
Bonsoir.
Nous avons également Modibo Mao Makalou, économiste. Monsieur Makalou, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Je suis Imran Akilo Maïga, auditeur et auditrice. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Monsieur Seydou Bokoum de l'Association des ouvriers du Mali, comment se porte le secteur des ouvriers au Mali?
Très mal.
Comment?
À savoir, aujourd'hui, l'État n'arrive pas à jouer son rôle aujourd'hui pour la promotion même du secteur des ouvriers au Mali. Hein? De deux, les ouvriers sont piétinés, très piétinés aujourd'hui au Mali. De deux, les ouvriers font correctement leur boulot, mais malheureusement, le Malien n'a pas la notion et la culture même, c'est-à-dire des produits locaux. Donc, ce qui cause énormément de problèmes aujourd'hui à ces ouvriers. On dit aussi que le secteur des ouvriers, l'État tue aujourd'hui ce secteur. Trois, les ouvriers n'ont pas de soutien au Mali, sur tous les plans. Quatre, l'association aujourd'hui des consommateurs du Mali ne pense même pas à ce secteur. Cinq, les ouvriers sont très crédibles aussi également face aux consommateurs, face à la population. Mais au retour, c'est la population qui n'arrive pas à comprendre le mécanisme même du secteur de l'ouvrage au Mali. Donc, en dernier mot, ce secteur est très mal organisé, est très mal compris, c'est-à-dire qu'au Mali.
Voilà. Monsieur Abdelkader Fofana de l'Association des consommateurs du Mali, est-ce que vous avez le sentiment que les ouvriers sont piétinés au Mali?
Et merci de la question. J'ai d'abord du respect pour les ouvriers. Et ceci étant dit, je suis d'accord avec M. Bokoum sur un certain nombre de points. Mais je voudrais bien qu'on fasse la part des choses qui sont pas, il n'a pas eu à dire. Et d'abord, chaque corps doit être rattaché à un secteur. Quand il dit l'État, ce n'est pas tout l'État qui s'occupe des ouvriers. Les ouvriers, en principe, sont rattachés à une institution. Alors, j'aurais voulu qu'ils disent qu'est-ce que cette institution ne fait pas comme travail, qu'ils devraient faire. Ça, c'est le choix. Il y a d'autres aspects qu'il n'a pas cités. Quand il me dit que les ouvriers sont très bons, je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec vous? Ce n'est pas forcément la faute des ouvriers. Le premier problème que je vois, c'est le matériel ou les matériaux avec lesquels les ouvriers travaillent. Ce n'est pas forcément de qualité. Puisque l'ouvrier travaille pour quelqu'un et la personne, en fait, désigne ces matériaux qui ne sont pas forcément de qualité. On voit maintenant sur le terrain tout ce qu'il y a comme matériel. Vous pouvez avoir quelque chose à 10 000 francs et la même chose à 500 francs. Je prends une serrure. Alors si vous voulez qu'avec une serrure de 1 500, avoir un travail de 7 000 ou une serrure de 5 000 ou 7 000, je pense que ça c'est le propre d'un Malien. Et un ouvrier ne peut pas le faire, il ne peut pas le faire. Et troisième point, c'est que les ouvriers ne sont pas formés. Il n'y a aucune attention à leur formation. Ils sont déversés sur le marché comme ça.
Et c'est la faute de qui? Pourquoi ils ne sont pas formés?
Ils ne sont pas formés et je dirais que c'est la faute de l'État. La faute de l'État, pas dans sa généralité.
Vous dites que aussi ce n'est pas la faute de l'État.
Je viens, quand j'ai dit la faute de l'État, je prends un secteur. Et si je prends par exemple la mécanique. La mécanique, si une voiture de l'État tombe en panne, on amène à CFAO. Or, quand vous sillonnez les rues, vous avez des garages qui sont là, des mécaniciens qui sont là. Et ces véhicules leur reviennent. C'est-à-dire, si nous avons nos véhicules personnels, on va avoir nos mécaniciens de quartier. Par contre, si c'est le véhicule de l'État ou c'est payant, on les amène ailleurs. Et nous, quand on amène sur nos mécaniciens du quartier, ils ne sont pas payés. On choisit son mécanicien qui est son parent ou qui est un ami. On ne paye pas forcément bien. Pendant que s'il y a les commandes de l'État, on les amène à d'autres personnes. Et l'État est prêt à débourser le maximum. C'est pour ça que je dis. Quand je dis les ouvriers doivent être rattachés à un ministère qui va défendre leurs droits. Mais pour le marché que l'on donne aux ouvriers, c'est l'État qui doit organiser de manière à ce que les ouvriers puissent avoir accès au marché d'État.
Nous
ce qui n'est pas le cas.
À l'organisation du secteur. Monsieur Modibo Mao Makalu, est-ce que l'État tue le secteur, comme le dit l'ouvrier qui est là?
Mais non, il y a plusieurs choses. Il ne faut pas tout mélanger. Je crois qu'il va falloir serrer un peu les choses. De quoi parlons-nous? Nous parlons de la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre est très importante dans tous les pays du monde. Nous avons fait une étude ici en 2006 des pays de la CEDEAO pour parler de la croissance pro-pauvre. Et la conclusion de ces études, il émanait de la conclusion de ces études qu'aucun pays ne s'est développé sans ressources humaines qualifiées et compétentes. Le facteur capital humain est ce que un pays dispose de plus précieux. Parce que dans les facteurs de production, vous avez le capital humain, vous avez le capital physique et vous avez le capital financier. Et c'est le capital humain qui est le plus important. Maintenant, la main-d'œuvre. De quoi parlons-nous? Parlons-nous du secteur public ou du secteur privé? Moi, à mon avis, je pense qu'on parle du secteur privé. Parce que la plupart des personnes qui travaillent avec leurs mains travaillent pour elles-mêmes. Et ce sont dans le secteur privé. Secondo, est-ce que nous parlons du secteur formel ou nous parlons du secteur informel? Je pense qu'en grande partie, nous parlons du secteur informel. Parce que la plupart des gens qui soit réparent les motos, les voitures, sont maçons et autres, travaillent pour elles-mêmes. Sont-elles enregistrées ou sont-elles formellement dans des entreprises identifiées? Je pense que ça, c'est une autre question. Monsieur Fofana vient de dire... à quelle corporation est rattachée la plupart des ouvriers? Cela, il y a la Fédération des artisans, mais il y a beaucoup d'autres fédérations. Et ce problème aussi a besoin d'être défini. Donc il y a un problème de définition par rapport à la main-d'œuvre. La main-d'œuvre qualifiée et la main-d'œuvre non qualifiée.
Qu'est-ce qui explique ce problème-là?
Mais ce problème, c'est à la base, en fait, je pense que c'est le manque de vision au sommet de l'État par rapport à la formation professionnelle. La formation technique et professionnelle. Vous savez...
Donc, vous lui donnez raison
En partie, parce que si vous voyez le budget de l'État, parce que c'est le budget de l'État, la loi de finances qui définit le budget de l'État et les priorités de l'État. Et le secteur de l'éducation est, à mon avis, le second, si j'ai les bons chiffres, est le second secteur, a le second budget de l'État, après la défense et la sécurité, et avant l'agriculture. Mais qu'est-ce que nous voyons? C'est l'éducation de base. L'enseignement supérieur, un peu, mais la formation technique et professionnelle est vraiment délaissée. Et l'enfant pauvre de l'instruction au Mali, et dans la plupart de nos pays.
Alors, Monsieur Seydou Bokoum de l'Association des ouvriers du Mali, comment, vu ces difficultés que vous venez d'énumérer, comment vous parviendrez à joindre les deux bouts?
Avant de répondre à votre question, je souhaiterais au moins répondre, sinon ajouter quelques contributions. C'est-à-dire qu'aux deux mots, c'est-à-dire que des frères qui sont là. Aujourd'hui, quand je dis que c'est l'État qui tue les ouvriers, ce n'est pas compliqué. Je n'avais pas donné le détail par rapport à ça, je l'ai donné juste en parabole. Aujourd'hui, la première des choses, le Mali, la vision même de l'État est orientée sur l'agriculture. Donc, au haut sommet de l'État, on se vante en disant qu'on a alloué 15% du budget national à l'agriculture. Pourtant, cet agriculteur qui est au bout du village, qui est en train de cultiver matin, midi, soir, n'a que 3 mois pour cultiver. Et les 9 mois restants, il redevient ouvrier. Sinon, il est mécanicien. Sinon, tantôt, il est menuisier. C'est ce menuisier qui est transformé en agriculteur. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, aujourd'hui, on a parlé de la formation. l'État n'arrive pas à avoir des politiques d'orientation, de formation au Mali. Le Mali aujourd'hui n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'universités, mais on a besoin d'avoir des ouvriers qualifiés. Alors que chez nous, il y a un sérieux problème d'ouvriers qualifiés. Qui doit orienter les gens vers des écoles techniques pour avoir des ouvriers qualifiés? C'est l'État. Il faut en ce moment promouvoir les écoles techniques. Il y a combien de jeunes ingénieurs ou combien de jeunes juristes aujourd'hui qui chôment, qui sont à la maison, pourtant qui ont leur place dans le secteur des ouvriers au Mali. Quand on dit ouvrier, vous qui parlez aujourd'hui, vous êtes ouvrier, mais faisons la part des choses. Il y a un ouvrier et il y a un artisan. Il y a la différence entre ouvrier et artisan. Je pense que aujourd'hui, le secteur des ouvriers a un ministère digne de ce nom. Dans le monde des artisans, aujourd'hui qu'on dit ouvrier, il y a un ministère de l'artisanat qui n'a que 0,1% du budget national. Pourtant, les ouvriers occupent les 52% de la population active au Mali. Sinon, plus de 52% de la population active au Mali. D'après le ministère qui n'arrive même pas à faire le bon recensement des ouvriers au Mali, tantôt on parle de 40%, tantôt on parle de 47%. Nous, dans nos statistiques, on a dépassé les 52% de la population active. Comment? Celle qui est à la maison, qui est en train de cuisiner, là, elle est artisane. Si elle est artisane, c'est qu'elle est ouvrière. Pourtant, on a tous des cuisinières à la maison. C'est pour vous dire que sur chaque 3 foyers, il y a un ouvrier dans 2 foyers. Pour ne pas te dire dans les 3 foyers au Mali. Donc, ça c'est le premier problème. Le second problème que je vais vous dire par rapport à ça, c'est qu'aux ouvriers au Mali, joindre les deux bouts, c'est très facile et très compliqué. Aujourd'hui, les ouvriers étaient obligés de se dissocier de l'État. De se dissocier de l'État et d'aller un peu vers la médiocrité pour manger. Ils ne travaillent pas pour au moins développer quelque chose, mais ils travaillent juste pour avoir leur prix de pain. Alors qu'aucun pays au monde ne se développera sans que son secteur ouvrier soit au point. Donc, c'est l'État qui pousse aujourd'hui ses ouvriers à aller vers ça. Raison pour laquelle on dit il n'y a que des ouvriers passables au Mali, mais pas des ouvriers qui tendent vers la transformation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Si le secteur des ouvriers au Mali avance, le Mali va en ce moment vers l'industrialisation, c'est-à-dire de ce secteur. C'est les petites usines, sinon les entreprises artisanales bien structurées, bien préparées, qui se transforment en usines. Les usines ne viennent pas du ciel. Ils ne viennent pas du ciel et on ne les transporte pas comme ça. Il faut organiser ce secteur et pour qu'on puisse avoir en ce moment des usines à long terme.
D'accord. Monsieur Abdelkader Fofana, quand il dit que les ouvriers représentent 52% de la population active, est-ce que c'est le cas?
Bon, ça dépend de quel côté de la balance on se trouve. Il peut avoir raison. Moi, je ne maîtrise pas très bien les chiffres parce que je n'ai pas eu à me concentrer sur ça. Mais moi, je crois que le problème du monde ouvrier, d'abord, il y a une terminologie avec laquelle je ne suis pas d'accord. Ouvrier qualifié, ça n'existe pas. La qualification est un qualificatif qu'on acquiert. C'est une qualité qu'on acquiert dans l'exercice de la fonction.
Est-ce que le peu de qualifications qu'ils ont aujourd'hui est réjouissant?
Je ne dis pas le peu de qualifications qu'ils ont. Je donnais un exemple. Quand vous êtes un maçon et que vous voulez faire de la peinture, vous voyez que vous êtes attiré par un travail qui n'est pas le vôtre. Donc le travail que vous allez faire sûrement ne sera pas de qualité. Le consommateur, quand il s'amène, je prends un maçon à qui vous donnez du boulot, malien, vous prenez un maçon d'un autre pays à qui vous donnez le même travail. L'expatrié, le maçon qui n'est pas malien, ne prendra pas le même prix que le malien. Vous n'allez pas payer le maçon malien au même prix que l'autre. Mais au bout, vous voulez le même travail. Les matériaux que vous allez lui donner à l'étranger, vous ne serez jamais d'accord pour donner ce matériau au malien. Donc, quand on dit qualifié, c'est dans le travail que la qualité sort. C'est-à-dire on qualifie l'ouvrage fini. Le produit fini, c'est en ce moment qu'on lui donne une qualité. Mais la formation de l'ouvrier lui-même, l'organisation, cela dépend même de la corporation. Je pense que c'est les corporations qui n'arrivent pas du tout à savoir qu'il y a lieu de s'organiser, qu'il faut qu'ils essaient, un, de reconnaître qui fait quoi, et entre eux, d'essayer d'établir une hiérarchie dans le travail. Ensuite, fixer les prix et montrer les difficultés qu'ils peuvent rencontrer et prévoir les sanctions. J'ai essayé d'organiser le monde, un moment le monde des ouvriers. C'est un peu difficile, d'abord.
Pourquoi c'est difficile?
C'est très difficile. Je prends l'exemple, je suis architecte, je donne l'exemple d'un maçon. Vous êtes entrepreneur, vous travaillez avec 5 maçons, des manœuvres. Une fois que le chantier est fini, vous allez trouver qu'un maçon parmi vous, ou un ouvrier parmi vous, dans un de vos prochains marchés, il sera entrepreneur, il va soumissionner en même temps que le patron avec lequel il a eu à travailler. 3 ou 4 mois après, on ne peut pas dire qu'il est qualifié. Mais il se peut qu'on lui donne le marché parce qu'il coûte moins cher que l'autre. Donc, c'est le fait qu'il n'y a pas d'organisation dans le secteur. Alors, si vous voulez avoir un truc de qualité avec un apprenti et la même chose avec son maître, j'avoue que c'est très difficile. Mais il faut qu'eux-mêmes, ils s'asseyent au niveau de leur organisation et ils mettent de l'or. Cela peut passer par le ministère auquel il est rattaché ou l'institution à laquelle il est rattaché. Pourquoi? Parce que c'est à l'institution maintenant de définir la possibilité à ses ouvriers d'accéder au marché de l'État.
Vous avez parlé de l'accès au marché, nous arrivons sous peu. Monsieur Modibo Mahomakalou, économiquement, est-ce que les ouvriers pèsent?
Oui, ils pèsent beaucoup. Parce que, vous savez, dans nos pays, l'économie informelle est plus importante que l'économie formelle. Quand vous prenez nos statistiques macroéconomiques, c'est-à-dire nos agrégats, agrégat, ça veut dire que, par exemple, quand on prend le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse de la nation, c'est l'ensemble des biens et des services qui se trouvent dans un pays donné, multiplié par leur valeur. Donc ça donne la richesse nationale. C'est ça qu'on appelle le produit intérieur brut. La richesse nationale d'un pays, c'est-à-dire tout ce qui est produit en termes de biens et services dans un pays, hein, et multiplié par leur valeur. Donc si nous examinons bien dans notre pays actuellement, sur ce qui est recensé formellement, vous avez le secteur primaire, c'est-à-dire le développement rural, l'agriculture, l'élevage, la pêche, la cueillette, la sylviculture, pisciculture, tout ça. Tout cela fait environ 40%. Le secteur manufacturier, les usines et autres, font 20%. Et le secteur des services est en train d'augmenter considérablement et cela fait 40%. Mais ça, c'est en grande partie à cause des télécommunications. Mais cela comprend les transports et puis beaucoup, tous ceux qui travaillent pour eux-mêmes, par exemple, le secteur privé, en grande partie, sont dans le secteur des services. Mais ce qui fait la prospérité d'une nation, c'est quand on fait des services à valeur ajoutée. Et c'est là que je rejoins mes deux collègues en disant qu'il faut faire la part des choses. Moi, j'ai travaillé dans le secteur des mines. J'ai travaillé pour Broken Hill Proprietary, qui est une compagnie australienne. C'est elle qui exploitait la mine d'or de Siama. J'ai travaillé là-bas dans le département financier. Tenez-vous bien qu'il nous est arrivé d'avoir besoin d'ouvriers spécialisés et ne pas en trouver au Mali. Dans la souderie, dans la menuiserie et dans la mécanique. Nous étions obligés d'avoir recours à la sous-région et jusqu'en Asie, jusqu'aux Philippines, il y a des ouvriers spécialisés qui venaient pour faire un travail précis. Et si vous considérez que le secteur minier est vraiment un grand secteur de notre économie nationale, parce que c'est le premier secteur pourvoyeur de recettes d'exportation, mais il n'y a pas de service valeur ajoutée par des sociétés maliennes. On n'emploie pas assez de Maliens pour les services dans les mines.
Vous dites tout à l'heure que le secteur est un secteur pourvoyeur, mais pourquoi on n'arrive pas à organiser ce secteur-là? Pourquoi l'État n'arrive pas à organiser?
C'est une question de vision. C'est une question de vision. Nous avions fait une étude comparative avec le Maroc. Et le Maroc a, dans le secteur, parce qu'ils sont l'un des plus gros producteurs de phosphate, tous les services à valeur ajoutée autour des mines sont occupés par des entreprises marocaines. Mais au Mali, ici, mais même les compagnies minières ne sont même pas assurées au Mali. Elles ne sont même pas assurées au Mali, alors qu'il y a des assureurs maliens qui sont là. Tout cela dépend de la qualité des politiques publiques. Aussi, il ne faut pas oublier que nous sommes dans phase d'intégration économique et qu'il y a le libre établissement et le libre exercice des professions libérales dans notre entité sous-régionale qui s'appelle l'UEMOA et de même que la CEDEAO, Union économique et monétaire ouest-africaine, les 8 pays qui ont en partage le franc CFA, et la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe les 15 pays qui sont en Afrique de l'Ouest. Et il y a aussi la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux, des facteurs de production dans ce sous-temps. C'est pour cela que nos ouvriers sont en compétition avec d'autres ouvriers. Mais est-ce que nos ouvriers sont outillés? Est-ce qu'ils sont formés? Est-ce qu'ils sont adéquatement formés? Est-ce qu'il y a une politique pour les former? Est-ce que l'État prend en charge ce secteur pour en faire un grand secteur pourvoyeur d'emploi, en tout cas?
D'accord.
Ça, c'est la question que je me pose.
Alors, M. Seydou Aboukoum, on parle de la mal-organisation du secteur des ouvriers. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous organiser?
Aujourd'hui, quand j'entends parler de la mal-organisation, je me pose la question, mais comment? Il ne s'agit pas que c'est très mal organisé. Je rejette toujours la faute à l'État et aux structures fêtières en ce moment.
Mais concrètement, qu'est-ce que vous faites pour que...
Je suis en train de vous expliquer. J'ai dit, je rejette encore la faute à l'État et aux structures fêtières, c'est-à-dire de ses ouvriers. L'État d'une part, et maintenant aux structures fêtières, c'est-à-dire de ce monde des ouvriers qui parle, c'est-à-dire de l'artisanat. Aujourd'hui, je rejoins tout de suite Michel Makalou en disant que vu le règlement 01-2014 du nouveau code de l'UEMOA qui organise l'ensemble des corps des métiers, c'est-à-dire que chaque corps des métiers devrait aujourd'hui être organisé en association. Vous êtes mécanicien, tous les mécaniciens se retrouvent aujourd'hui en association et tous les menuisiers paraissent ainsi de suite, ainsi de suite. Dans un premier temps, l'artisanat faisait 171 corps de métiers, mais aujourd'hui, ils sont à plus de 200. Hier, ils étaient à quelques textes. Aujourd'hui, ils ont toute une brochure de textes. Ce n'est pas un problème de volonté. Donc, c'est pour vous dire que l'État, aujourd'hui, n'a pas mis juste un poids en vouloir réorganiser le secteur. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a eu aujourd'hui la création de la Fédération des artisans du Mali, qui est FINAM. Il y a l'Assemblée permanente des chambres de métiers. Il y a des associations, il y a des unions. Ils sont éparpillés partout. Mais est-ce que vous pouvez comprendre que ce même État attribue des récépissés d'associations à 10 personnes qui ont les mêmes visions, qui ont les mêmes corps de métier, qui veulent faire la même chose? C'est juste, c'est le nom qui diffère. Uniquement pour une histoire de guerre de leadership. L'État doit prendre sa responsabilité. Tous les mécaniciens... L'État doit prendre sa responsabilité à gérer. Tous les mécaniciens se retrouvent dans une seule association pour qu'ils soient mieux contrôlés. Ça, c'est un. Aujourd'hui, le seul correspondant de l'État face à ses ouvriers, c'est l'APCM, l'Assemblée permanente des chambres de métiers. Aujourd'hui, qui n'arrive pas à recenser d'abord les ouvriers du début à la fin. Le recensement même des ouvriers pèse beaucoup. Est-ce que l'État a donné les moyens aujourd'hui à l'Assemblée permanente des chambres de métiers pour qu'elle arrive à mieux recenser d'abord les ouvriers? Pour organiser les gens, il faut les recenser.
Mais concrètement, qu'est-ce que votre association fait pour que cela change?
Aujourd'hui, nous sommes en train d'abord de sensibiliser.
Sensibiliser qui?
Sensibiliser tous les ouvriers. D'abord, aller se faire enregistrer auprès des structures fêtières. Un. De deux... Nous sommes en train d'organiser les entreprises artisanaux. Quand je dis les entreprises artisanaux, à aller se faire répertorier, hein, de deux, à se conformer selon les textes de ce pays, et troisièmement, à être plus compétitif. Est-ce que vous comprenez? Donc, une entreprise artisanale aujourd'hui recensée prouve que aujourd'hui, il est en phase de réorganisation interne. Et je vous... dit également que ce secteur, l'organisation de ce secteur, nous sommes en train de discuter avec pas mal de partenaires financiers et techniques. Ces partenaires financiers et techniques, qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? On a dit il faut que l'État arrive à dissocier la formation professionnelle des ouvriers au ministère de la formation professionnelle et le remettre au ministère de l'artisanat. C'est l'artisan qui connaît le besoin de l'artisan. Mais ce n'est pas l'enseignant transformé en conseiller technique qui peut résoudre le problème d'un artisan. L'exemple le plus typique, vous avez beau être intelligent, si tu n'es pas allé à l'école, tu ne peux pas écrire. Ce n'est pas possible. Donc, si aujourd'hui on arrive à dissocier la formation professionnelle de ces ouvriers au ministère de la formation professionnelle et le donner au ministère de l'artisanat, co-géré par l'Assemblée permanente des chambres de métiers et les différentes chambres de métiers régionaux, vous allez voir que l'organisation et la formation syndicale de ce secteur va aller de l'avant.
D'accord. Alors, monsieur Abdelkader Fofana, quand il dit qu'il y a une mobilisation en cours, est-ce que cette mobilisation pourrait changer la donne, les difficultés que vous venez d'énumérer tout à l'heure?
Elle ne va pas changer du tout. Elle ne va pas changer. Pourquoi? Parce que si j'ai bien compris, ou si je suis monsieur Boukoum, je pense qu'il se livre, il est en train d'amener les ouvriers vers le politique, qui ne résout jamais rien. Les associations, les organisations, c'est des mots creux. Il n'y a rien derrière. Une association ne tient que par une personne. Ce n'est pas ça l'organisation des ouvriers.
Mais comment ils doivent faire?
Comment ils doivent faire? Il y a mon voisin qui a dit un mot qui est extrêmement important. Ouvrier spécialisé, mais pas qualifié. Quand ils organisent les secteurs, il y en a qui vont évoluer vers la spécialisation. C'est-à-dire, vous allez prendre un domaine, il y a quelques ouvriers qui vont se spécialiser dans ça. Et il y a des travaux qui ne seront conférés à eux. C'est ce travail de base, je ne vais pas être très long, qui n'est pas fait par les ouvriers réunis. Je ne sais pas comment. Si j'en viens à vous donner une organisation dans le domaine de bâtiment, c'est pas limitatif. Mais moi, j'ai travaillé en son temps avec le président de la Fédération nationale des artisans. Le recensement dont il parle, il est fait, mais ce n'est que du papier. Ce n'est pas l'ouvrier le papier. L'ouvrier, vous lui tendez le papier, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est quoi? C'est le matériel avec lequel il travaille. L'organisation du travail, la définition des qualités de travaux à faire. Ce travail doit être fait, la fourchette de prix, c'est de tel à tel truc à tel truc. Qui peut y accéder? L'organisation va leur permettre d'avoir des moyens financiers pour résoudre leurs problèmes. Mais quand il dit rattaché au ministère de l'artisanat, le ministère de l'artisanat peut disparaître demain. On est dans un pays où le ministère peut aller de 12 à 35. Et selon celui qui est là, le travail se définira par rapport à sa proposition. Je vous donne l'exemple que j'ai toujours décrit. Vous prenez un hôpital. À l'hôpital, vous allez mettre à la tête de l'hôpital un cardiologue. Il va sans dire que tout ce qui est traumato ne sera pas bien suivi que pour un problème cardiologique. Non, ce n'est pas ça. Il faut que les ouvriers s'asseyent ou la fêtière qu'ils mettent en place, qui est différente de l'État. L'État, c'est la définition des textes, l'organisation. Mais c'est à eux-mêmes de s'asseoir et de définir quel travail on doit être fait. Qu'est-ce qui n'est pas fait? Et qui peut adhérer à cette association?
Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que certains ouvriers de pays voisins qui viennent au Mali parviennent à trouver leur épingle de jeu pendant que nos Maliens n'arrivent pas à trouver leur épingle de jeu?
C'est très facile à savoir. Parce que je prends le secteur du bâtiment. Je prends l'exemple d'un pays, je ne vais pas le citer, un pays voisin où les ouvriers, les maçons travaillent beaucoup. Il y a ce complexe malien qui est là, qui veut qu'on vienne quelque chose qui n'est pas d'ici. Qu'on veut montrer que c'est lui qui a fait mon truc, mais pas un malien. Un. Deuxièmement, vous allez trouver que pour que tu quittes ton pays pour aller ailleurs, il va sans dire que tu t'es spécialisé en une façon de faire. Tu le maîtrises bien. Je prends les tailleurs. Pendant les fêtes, on voit des tailleurs de broderie qui ne sont pas forcément maliens, mais qui ne sont pas prêts à faire le travail au prix auquel les Maliens le font. On se rue vers eux, ils respectent les contrats, ils respectent la qualité du travail qu'on leur donne, ils refusent un certain nombre de produits, vous les ramenez, ils refusent de travailler avec. Et il y a cette exigence qui n'existe pas chez nous. Notre ouvrier, il ne veut pas rater le marché, il est prêt à faire ton travail avec ce que tu lui donnes, sachant que ce n'est pas la qualité, sachant qu'au bout du boulot, il n'aura pas un bon boulot. Mais il veut juste quelque chose. Et ce n'est pas l'État qui peut faire ça. L'État, c'est qui? C'est moi, c'est lui, c'est lui. L'État, je peux dire qu'il existe, mais il n'existe pas. L'État est ce que nous en ferons. Si vous avez un ministère, si le ministère n'est pas d'accord avec vous, votre association va vous défendre avec des points que vous aurez inscrits.
Alors, Monsieur Modibo Mao Makalou, à qui faut-il pour que les ouvriers puissent être mieux organisés?
Vous savez, moi, je pense franchement que c'est un problème, c'est une responsabilité partagée. Il y a des pays dans la sous-région anglophone où le petit cireur, il a un certificat. Il vient pas pour, il n'apprend pas sur le tas comment cirer les chaussures. On lui montre comment on cire les chaussures, comment ça se fait correctement. Vous voyez, les coiffeurs, la même chose. Donc toutes ces personnes sont valorisées dans ce qu'elles font. Mais ici, tout le monde veut être dans un bureau. Est-ce que vous connaissez le nombre de fonctionnaires au Mali? Tout l'État ne vaut pas 140 000 fonctionnaires qui sont à la charge de l'État. Nous sommes 20 millions de Maliens. Les autres, ils vont vivre comment? Nous avons 4 millions de personnes qui vivent du coton. Ça, c'est un bon exemple. C'est une filière intégrée, la culture du coton. Mais comment ça se fait que le Mali est le premier producteur de coton? C'est parce que les cotonculteurs sont encadrés. Sont encadrés par qui? Par la CMDT. Et la CMDT, elle avait un contrat plan avec l'État. Donc l'État doit déléguer une partie de ses responsabilités à certaines organisations. Et n'oubliez pas aussi que nous sommes dans un pays maintenant libéral. Donc l'État ne peut pas tout faire. Mais par contre, l'État a la responsabilité de l'instruction. Et l'État peut déléguer certaines parties au secteur privé d'une manière ou d'une autre. Et je pense que c'est une question d'organisation et de méthode et de vision du secteur. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une plus grande coopération publique-privée. Moi, j'ai surtout commencé au secteur privé.
Et pour avoir
accès. Et ensuite, j'ai travaillé pour le secteur étatique, notamment à la présidence de la République. Les fonctionnaires ne trouveront pas des solutions pour le secteur privé parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils ne savent pas. Il ne faut pas leur demander de faire quelque chose qu'ils ne savent pas faire. Donc, il faut une plus grande coopération entre l'État et le secteur privé, basée sur les besoins exprimés par le secteur privé.
Sans ça, ils n'auront pas accès au marché public.
Non, les marchés publics, l'État est le premier vendeur et le premier acheteur. Le budget de l'État, c'est pour tous les Maliens, secteur public et privé. Mais c'est à l'État d'avoir... Vous savez, on parle des politiques industrielles. C'est à l'État, dans sa planification économique, qui doit déterminer quel rôle il veut faire jouer au secteur privé. Mais sincèrement, foncièrement. Parce que l'État ne peut plus faire certaines choses. L'État ne peut plus construire des usines. Ça, c'est fini, ça. Et comme l'a dit M. Boukoum, c'est petit à petit, quand les gens s'organisent, comme je l'ai dit, quand vous prenez l'histoire économique des nations, c'est petit à petit que les artisans construisent, et quand le marché devient plus grand, après, ils construisent des produits semi-finis, ensuite ils construisent des produits finis, ensuite ils exportent dans la sous-région, ensuite ils exportent à l'extérieur. Mais tout cela, c'est un processus. Mais c'est un processus que l'État doit faciliter au niveau du secteur privé.
D'accord. Alors, Monsieur Boukoum, quand il y a certains consommateurs qui dénoncent l'anarque, le manque de sérieux de certains ouvriers, comme les mécaniciens, les menuisiers, les tailleurs, entre autres, comment pouvez-vous expliquer cet anarque au sein de...
Bon, ça, c'est... Nous pouvons dire que c'est une histoire ancienne. Tous les véhicules aujourd'hui, comme vous avez dit, mécaniciens, dans le temps, tous les véhicules qui sortaient pour aller un peu vers les pays limitrophes du Mali, aujourd'hui, on a pu avoir la solution à ça. Nos mécaniciens aujourd'hui sont très bien formés, très bien préparés, qui peuvent aujourd'hui répondre à ce besoin. Mais qu'est-ce qui se passe au Mali dans ce secteur? S'il s'agit d'aller s'endetter, on reconnaît la valeur de nos mécaniciens. Parce que ces jours, tu n'as pas d'argent, tu es obligé d'aller recourir au service de ce mécanicien. Mais s'il s'agit aujourd'hui de dépenser, on connaît les grandes structures qui sont installées au Mali. Donc, il y a encore une question de complexe. Le Malien est de nature complexée en disant que j'ai transporté ma voiture de tel pays à tel pays. Aujourd'hui, il y a eu trop de modules de formation aujourd'hui qui ont été... Il y a eu tellement de mécaniciens bien formés aujourd'hui au Mali qu'on ne peut même pas connaître le nombre. Donc, ce n'est pas le mécanicien, que ce soit le mécanicien, les menuisiers et autres, il y a tellement de produits aujourd'hui sur le marché qui n'attendent que les clients qu'on ne peut même pas en compter.
Est-ce que ce produit-là, le secteur est-il protégé?
Bon, protégé, quand je dis protégé, on ne va pas continuer à dire l'État. La seule chose que je peux vous dire, aujourd'hui, ce secteur a besoin seulement que de deux choses. Que l'État arrive à comprendre qu'il ne peut pas s'en sortir sans ce secteur, et que ce secteur aussi arrive à comprendre que sans eux et sans l'État, eux aussi, ils ne pourront pas s'en sortir. Il faut une synergie d'action, de travail, de vision. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est que ce secteur a besoin de l'attention de tout un chacun. Aujourd'hui, je vais vous donner juste une petite astuce. On peut créer notre propre banque ici. On va vous donner 50 000 ouvriers qui vont faire un dépôt réglé de 50 000 francs par mois, multiplié par 50 000. Un mois, ça fait combien? Multiplié par 12, vous avez le capital d'une banque au Mali. Mais pourtant, les banquiers ne donnent pas un centime aux ouvriers, soi-disant qu'ils ne sont pas organisés. Donc, je vais vous dire une chose. Nous, nous sommes un peu organisés. On est dispersés par des histoires de guerre leadership. On est dispersé parce que jusqu'à présent, le Malien n'arrive pas à reconnaître la valeur de son ouvrier. Je rejoins un peu Michel Fofana qui disait que les maçons, aujourd'hui, pour la grande finition de tous les grands travaux au Mali, on fait appel quand même à des maçons qui viennent, c'est-à-dire des pays limitrophes du Mali. Alors qu'en réalité, tous les grands chantiers du Mali sont faits par nos maçons. La finition, c'est d'autres pays, mais les grands ouvrages sont faites carrément, ça dit que par nos maçons. Quand tu regardes tous les grands chantiers des Chinois et autres au Mali, tu trouveras que tous les grands ouvriers, c'est des Maliens. D'accord. On n'a qu'un maître chinois et parmi au moins combien de mille employés maliens. Donc, en résumé, le secteur des ouvriers, c'est ce que nous, on a dit. On dit il faut maintenant créer un cadre de dialogue. Quel type de cadre de dialogue pour ce secteur qui est même la solution que nous, nous voulons proposer à l'État, c'est de faire l'état général de ce secteur.
D'accord. Alors, monsieur Fofana, est-ce que vous reconnaissez que les ouvriers, vous reconnaissez la valeur des ouvriers?
Absolument. Je reconnais leur valeur. Je ne cesse de louer. Il a pris un secteur, je vais parler de ce secteur. Mais quand il dit de faire les états généraux ou de se concerter, je ne suis pas d'accord avec le mot. Il faut avoir l'État, il faut voir en l'État quelqu'un avec lequel il faut poser un dialogue. Vous vous asseyez, on discute. L'exemple, je prends CFAO Technologies. CFAO Technologies est là. Tous les véhicules de l'État pratiquement sont réparés là-bas. Si les mécaniciens s'organisent, ils se mettent en règle vis-à-vis du fisc. Ils ont une corporation structurée. La corporation peut exiger de l'État que les ministères fassent des appels d'offres pour que les véhicules de tel ministère soient réparés au niveau de telle personne pendant tel nombre de temps. Pour que ce ne soient pas les mêmes personnes qui nous amènent les mêmes véhicules et après qu'ils sont là eux-mêmes à réparer ces véhicules. Mais ils le font réparer par, ils les réparent avec nos propres ouvriers à nous, avec nos propres mécaniciens. Et quand ils n'arrivent pas, ils retournent maintenant dans les petits garages, selon leur relation. Mais c'est eux qui peuvent faire ça, ce n'est pas l'État. C'est à eux de faire. L'organisation, c'est ça. S'asseoir et mettre sur table ce qu'il faut faire et obliger l'État à rentrer dans ce créneau. Sinon, je te prends un exemple. Si les mécaniciens demain disent, écoute, on dépose la clé, pendant une semaine, on ne repart rien, vous savez ce qui va se passer? Tout le monde va marcher à pied. Toutes les sous-traitants que vous voyez à travers la ville, ils sont trois ou quatre fois au garage dans la journée, mais ils ne font pas assez fort aux technologies. Ils vont dans ces mécaniciens de quartier qui, à la limite, ne sont pas payés et qui ne sont même pas considérés par l'État. Pas par l'État, parce que par leur corporation même, qui n'existe pas, qui n'existe que de nom, qui est dans les statuts, dans les papiers. Non, il faut qu'ils organisent et qu'ils obligent l'État à leur donner des choses, qu'ils obligent le client à leur donner des choses. Les mécaniciens, ce n'est pas des étrangers qui sont là, c'est pratiquement que des Maliens. Mais il n'y a aucune organisation. On va chez le mécanicien qu'on veut. Souvent, c'est un ami. Il y a eu l'histoire des R12. toute personne qui avait une R12 a un ami mécanicien. Sinon, tu gardes ta voiture.
D'accord. Monsieur Modibo Mawomakalou, est-ce que l'État a le moyen d'accompagner tous les ouvriers au Mali?
J'ai dit, je répète, l'État est le premier vendeur et le premier acheteur. Avec un budget d'environ 2 500 milliards par an, je pense que c'est une somme considérable à injecter dans l'économie nationale. Mais encore, faut-il, l'État ne finance pas le secteur informel. Il faut résoudre ce problème de formaliser le secteur informel, qui est plus important que notre secteur formel de l'économie. L'économie informelle est plus grande. Mais encore là, ça revient, c'est une responsabilité de l'État. Parce qu'il faut élargir. Parce que si l'État facilite les choses pour que les gens puissent être identifiés, avec le téléphone maintenant, c'est très facile d'identifier les gens, qu'on formalise la plupart du secteur informel, que les gens soient identifiés et qu'ils puissent participer à l'effort national à travers la collection des impôts et taxes, tout ça, ça permet de mobiliser les ressources intérieures. Et en retour, l'État doit pouvoir travailler avec ces personnes-là qui contribuent à l'effort national. Mais l'État ne peut pas financer le secteur informel comme ça. Mais aussi, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que... C'est une question d'organisation. Plus on est organisé, plus on a un pouvoir dans une société démocratique. Mais il faut s'organiser d'abord et voir ce qu'on peut demander et ce qui est possible. Il y a le réalisable et il y a le souhaitable. On peut vouloir souhaiter des choses mais qui ne sont pas réalisables. Mais il faut toujours quand même qu'il y ait un espace de dialogue, un espace de concertation au moins, pour voir dans quelle mesure l'État peut faire en sorte que ce secteur informel puisse être formalisé. Et aussi, moi, ce que je veux dire, comme je l'ai... L'État, c'est pas moins de 200 000 personnes. Nous sommes 20 millions de Maliens. Mais tous ces autres Maliens, de quoi ils vivent? Et cela est du ressort de l'État, de pouvoir aux besoins de la population, quelle qu'elle soit.
D'accord. Monsieur Cheikh Abdelkader, vous voulez réagir?
Oui, je voulais réagir par rapport à ce qu'il a dit. Il y a un aspect qu'on n'a pas souligné et que c'est extrêmement important. Vous prenez n'importe quel ouvrier, un mécanicien. Vous allez trouver que le mécanicien, il a une école et il forme des enfants au quotidien qui, 2 ou 3 ans après, sont des ouvriers. Ce que le nombre de ces ouvriers est 2 fois plus supérieur que les ouvriers formés par l'école, par l'école classique, mais qui n'est pas valorisé. Et c'est à la corporation de valoriser cet aspect.
Le temps nous fait défaut. Monsieur Seydou Bokoum, de quel accompagnement avez-vous besoin en 30 secondes?
En 30 secondes, on a besoin d'avoir de la formation, que l'État soit le premier consommateur de nos produits et que l'ensemble des Maliens soient les premiers consommateurs de nos produits locaux et aussi qu'on soit considéré tel qu'on est. C'est-à-dire qu'un ouvrier restera toujours un ouvrier, car au Mali, tant que l'État ne nous considère pas, nous allons toujours rester ouvriers.
Merci. Un ouvrier reste un ouvrier. C'est ce qui met fin à ce débat qui a porté sur les défis et perspectives des ouvriers du Mali. Nous étions avec Seydou Bokoum de l'Association des ouvriers du Mali, Cheikh Abdelkader Fofana de l'Association des consommateurs du Mali, Modibo Mawomakalou, économiste, à la mise en onde de Régie Vidéo, Salim Diouara et Gagny Kanté. Ce débat a été réalisé et coordonné par Mohamedou Touré et à la présentation Imran Akilo Maïga. À demain pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chien Nibiri.
Halou Mandi.
Chien Nibiri. Sigi Kafoba.